Welcome to MENA Defense Podcast, the first podcast about geostrategy, defense and security in the Middle East and North African region.
Bonsoir monsieur Lounès, مساء الخير استاذ لونس. نقدمك استاذ يعني بروفيسور مساعد مختص في الشؤون الدولية في جامعة الأخويين ومؤلف كتاب الإرهاب في منطقة الساحل من القاعدة إلى داعش لو تيروريزم دون إسرائيل دالكايدا آ داعش سي بيان سايك
لو جهاد دونك
جنوري دونك الجهاد في شمال افريقيا والساحل من القاعدة إلى داعش. دونك استاذ لوناس احنا استضفناك لاول حلقه هذه تاع البودكاست باش نتكلموا شويه على واش راه صاري في الساحل اليوم. كاين خلط كبير في يعني بالخصوص في الجزائر، كاين تهويل، كاين تخويف كبير، وكاين يعني بمثابه البعد نتاع منطقه الساحل من الشمال الجزائري، ما كانش معرفة كبيرة للمنطقة للشعب الجزائري، وما كانش فيه حتى يعني تواصل أو كوميونيكاسيون جادة من طرف السلطات وحتى من طرف القنوات ولا الإعلام الجزائري في هذا الخصوص. مو على بالي مانيش نخلي فيك تكلم، درك نعطيك انت هذيك الفرصة تتكلم. دونك اسكو تقدر تذكرنا بالمراحل اللي عبرتها منطقة الساحل منذ اليوم 10 سنوات على الأقل، 2010-2020 من فضل.
يعطيك الصحة دابورد مانفيتي للحلقة الأولى سي خريف، يعطيك الصحة. دونك الوضع في الساحل إفكتيفمون دونك الوضع صعيب. En fait, depuis 2011, l'ASMA fait en Libye, ça a en fait affecté la sécurité au nord dans le nord Mali. La déstabilisation de la Libye يعني, a déstabilisé le nord Mali. Donc, comme vous savez, à l'époque, en 2012, le Jamaat al-Irhabiya, Ansar al-Din, le Mujawa à l'époque, ou Al-Qaïda fil Maghreb al-Islami, se sont alliés dans le Tahalouf, ou ont pris le contrôle du Nord-Mali. Donc, c'est 2012. En 2013, il y a eu donc l'opération Serval, qui est dirigée par la France, a repris le contrôle du Nord-Mali. Ça, où je sera, c'est que, en fait, le Jamaat al-Irhabiya, se sont repliés dans le sud de la Libye, se sont reconstitués, ou maintenant, elles ont progressivement réintégré l'ensemble de la région, Elles ont déstabilisé aujourd'hui, donc c'est toute la zone sahélienne qui est déstabilisée par ces groupes terroristes, Jamaat al-Irhabiya. Mais c'est plus compliqué que ça. Mais chez le mouchkil, c'est pas Jamaat al-Irhabiya, c'est qu'il y a des tensions ethniques, il y a des faiblesses, les faiblesses des États, qui sont en fait tout ça sont des facteurs aggravants. Donc il y a des massacres, il y a des tueries sur fond de conflit ethnique. En plus de donc des Jamaat al-Irhabiya que vous voyez rapidement un topo de la situation littéralement dramatique en demeurant. Donc voilà.
Justement, est-ce que tu as maintenant tu veux dire qu'il y a une مشكل جغرافي في منطقه الساحل قبل ما يكون مشكل تاع ارهاب ولا مشكل تاع جماعات مسلحه ولا حتى مشكل سياسي او اقتصادي وتنموي كما رانا نقولوا؟ Est-ce que ما راناش نشوفوا بلي كاين une sorte d'horizontalité يعني افقيه في الجغرافيا تاع المنطقه هذه تاع شمال افريقيا الكبرى، وما كانش ما راناش نشوفوا بلي كاين عزله ما بين منطقه الساحل و لي كابيتال دونك العواصم تاع هذه الدول.
En fait, là on dit des états, en fait qui est خريطه راك تشوف des états. Des états, on joue Mauritanie, le Mali, etc. Mais en fait, géographiquement, il n'y a pas de limite. C'est des zones complètement ouvertes. D'accord. Il y a là. C'est une continuité complète entre ces zones-là. Le Sahel, c'est une zone complète, une continuité complète. Il n'y a pas de frontière naturelle. Il y a des bêtes qui distinguent réellement chaque état. Donc ça, c'est d'une part. Donc du coup, en fait, vous avez une espèce de fluidité des problèmes. C'est une fluidité complète des problèmes entre ces états-là, si on peut dire. Et des groupes et des pro. Donc effectivement, il y a tout à fait une horizontalité complète. Tout à fait. Et donc sur fond, donc tout ça sur fond qui m'a rappelé les asma siyasiya, asma irtisadiya, asma ijtimaiya, des conflits ethniques. Donc en fait, je connais vraiment Wathen. Quand on parle de Jamaat al-Irhabiya, on parle en fait de peut-être 2500 combattants sur une zone qui est deux fois plus grande que l'Europe. Donc on se rend bien compte rapidement que le mouchkil, c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus profond et transnational.
Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais le mouchkil?
Alors, شوف, on a le مشكل, c'est simple, c'est ضعف, d'abord, ضعف الدولة, la faiblesse des États est endémique. La faiblesse des États, là-bas, est endémique. Autrement dit, il y a des zones, il n'y a aucun État. Corruption, pauvreté extrême, je veux dire, c'est une pauvreté affreuse qui existe. Absence de perspective, absence de perspective complète. Sur fond de tensions ethniques, cuites et recuites, si vous me passez l'expression, et la bête. Et donc, en plus d'implication des grandes puissances, de rivalité des grandes puissances, des puissances régionales. Donc, tout ça, vraiment, c'est un embryo entre tout ça qui fait que c'est une poudrière. Donc, aujourd'hui, le Sahel, en fait, c'est une poudrière. Et si vous voulez, on dit, juste au titre, qu'après le Moyen-Orient, c'est la deuxième zone la plus chaude de la planète en termes de conflits et de conflits, de présence de groupes armés radicaux et autres.
Justement, quels sont les acteurs qui sont sur le terrain? Je connais, يعني ما هي الجماعات الإرهابية وحتى النظامية اللي تتواجد اليوم على يعني في الساحة في الميدان.
Alors, d'abord, عندك combat de Jamaat Arabia. Donc, Jamaat Arabia. Alors, je parle. Donc, on a bien sûr Boko Haram, mais ça c'est plus vraiment vers l'est, du Sahel. Mais ils sont très présents. Essentiellement, Jamaat Arabia, on a trois groupes. On a Ansar al-Islam qui est du Burkina Faso. D'accord. Ou un de Tahalouf, en fait une alliance informelle. Mais alors le groupe pour le soutien à l'islam musulman, donc Majamat al-Nusrat al-Islam ou le Muslimoun. Après ça, on a le plus dangereux en ce moment, c'est donc Dawla al-Islamiyya fi Sahara. Donc l'État islamique sur le Sahara al-Kubra, donc dans le Grand Sahara. Et donc ces trois groupes, ça c'est le Jamaat al-Arabiya. Après ça, ensuite, on a les forces armées, bien sûr, des pays locaux, donc la Mauritanie, le Mali et autres. On a la force Barkhane, l'armée française. Vous avez maintenant en parallèle, ce qui est peu connu, mais qui en fait, c'est toutes les tueries qu'on voit sont en fait liées à des espèces de milices d'autodéfense et autres milices des villages qui sont créées au fur et à mesure de l'affaiblissement des États et de l'impact des États à défendre les villageois. Et donc, il y a toutes ces milices, on parle par exemple des Gatia au Mali, mais pas simplement, il y en a plein d'autres, d'autodéfense, qui soit sont liées indirectement aux États, soit pas du tout liées aux États, et qui sont également en violence. Enfin, finalement, on a des mafias très très puissantes, qui sont également des acteurs fondamentaux de la région. Voilà. Toutes sortes de mafias, pas simplement. Quand on parle de mafias, on passe souvent à la drogue, mais vous avez toutes sortes de mafias. Hein. C'est vraiment... Encore une fois, il faut comprendre que on est dans des régions qui sont extrêmement pauvres, où il n'y a pas de services sociaux, d'étatiques, etc. Et donc, souvent, on parle de... Vous savez, les mafias, parfois, remplacent l'État, hein, pour fournissent de l'emploi, des revenus et autres. Donc, on est vraiment... C'est un mélange, c'est une imbrication complète de toutes ces organisations, ces mouvements. On a des trafics de drogue, trafic d'essence, trafic de nourriture, trafic d'armes, trafic humain, par exemple, et voilà. Donc c'est vraiment une implication complète de tous les acteurs les uns contre les autres. Corruption aussi et autres. Donc voilà, c'est vraiment le résumé que je fais. Si vous aussi, il y a encore plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait.
Donc, on a parlé des acteurs, mais on a parlé d'un acteur كبير qui بالك كان هو le déclencheur de la crise هذه. Donc on a parlé d'un déclenchement de la crise qui a abouti الحرب في ليبيا. على كل حال عندك الحق, هو يعني حرب ليبيا كانت فتيل لإشعال النار في المنطقة. لكن ما تكلمناش على التوارق.
التوارق c'est un problème en fait là-bas. التوارق là touché le fond du problème. C'est j'ai pris 2011 comme vous, parce que bon, c'est un point de départ de l'actu actuel, mais vous avez raison qu'en fait, le problème Touareg, en fait, ne date pas de 2011 ni des années 2000, t'as des années 60, en fait. C'est même avant, c'est au moment des indépendances, comme vous le savez, les États ont été mal construits, c'est des États qui ont été construits de manière artificielle, d'une part, et ensuite, le problème Touareg, en fait, c'est un peu comme dans les pays africains, leurs droits n'ont pas été reconnus, leur culture n'ont pas été vraiment reconnus, notamment au Mali, mais pas simplement, hein, il y a dans tout l'ensemble de la région. Et donc, si vous voulez, depuis les années 60-70, il y a toute une série de rébellions qui ont eu lieu tout au long des années 70, 80, 90. Bon, en fait, là, vous touchez à un point très, très important, si vous me permettez. Je voudrais faire, parce que ça me permet de faire le lien avec Iyad Rally, si vous me permettez.
Voilà, justement.
Voilà, si vous me permettez. En fait, Iyad Rally, qui est l'actuel chef du groupe pour le soutien à l'islam musulman, qui est donc considéré comme étant la filiale d'Al-Qaïda Sahel, à l'origine était un chef des mouvements de rébellion Touareg. Donc, en fait, quand vous allez là-bas, c'était considéré comme un héros, hein, même encore aujourd'hui, son passé parle pour lui. Et en fait, Bon, moi, d'après des témoignages que j'ai pu regrouper, les échecs successifs d'une part des rébellions. D'autre part, les liens qu'il avait tissés lui-même à titre personnel avec les groupes armés, notamment comme il s'appelle Belmokhtar et Abu Zayd, notamment, qu'il avait tissé à l'époque. Le fait quand il était en Arabie Saoudite, où il a été lui-même était très pieux, il a été consul en Arabie Saoudite, si vous vous souvenez. Effectivement, c'est là où il a fait on est passé de quelqu'un de très pieux à quelqu'un qui est vraiment radical, rigoriste. Effectivement, Yassir, la toile de fond, la Touareg, la rébellion Touareg était là. Maintenant, mon débat de témoignage, j'ai recoupé à l'époque. Quelqu'un m'a dit, vers la fin des années 2000, Iyad Rally aurait fait une déclaration en disant très clairement que s'il devait diriger une nouvelle rébellion, celle-ci ne serait plus basée sur l'identité Touareg, mais serait basée sur quelque chose d'autre, plus rassembleur. Et c'est l'islam. Et, ça d'une part. En 2011, quand il y a eu la crise en Libye, le MNLA à l'époque s'est formé, le Mouvement National pour la Libération d'Azawad s'est formé. Ce qui est quelque chose qui est peu connu, c'est qu'Iyad Rally, en fait, allait à l'origine voulait être chef du MNLA. Il y a eu des luttes internes. En fait, quand on parle de luttes internes, c'est surtout d'individus, une rivalité d'entre individus entre lui à l'époque Najim qui ne savait pas fonctionner.
Et aussi la mort mystérieuse d'Ibrahim Agbaranga.
Absolument.
Juste un petit peu avant.
Absolument. Donc voilà, cette combinaison, c'est alors là finalement lui il quitte le MNLA et décide de former sa propre organisation Ansar Dine. Alors Ansar Dine, si on rappelle, Ansar Dine c'est une organisation islamiste malienne. C'est comme ça qu'il se voulait en fait, non seulement Touareg. Et malienne, islamiste radical salafiste malienne, qui a fait sa jonction avec, à l'époque, avec ACMI, et en fait, avec les Qaïda Maghreb islamique, et, c'est Ansar Dine qui a permis à ACMI réellement de s'enraciner, cette alliance à proximité, parce que ACMI, finalement, c'est une organisation transnationale. C'est Ansar Dine qui a donné l'enracinement local à ACMI. D'autre part, c'est pas un hasard, Iyad Rally, et le chef d'actuel du GNIM, donc le Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin, c'est parce que c'est un local. D'ailleurs, ce que disent tous les experts, incluant moi, c'est que la nomination de lui en tant que chef du GNIM se voulait comme une sahélisation du djihad, si vous voulez, pour ainsi dire, pour reprendre les expressions.
Comment vous expliquez l'apparition et surtout le maintien et surtout maintenant la montée en puissance de Daesh, de l'État islamique? Il n'y a pas eu d'énormes transferts de personnel du Moyen-Orient. En fait, c'est une apparition subite, soudaine, et qui est composée d'une autre ethnologie, et c'est une composante qui apparaît, qui vient de nulle part.
Adnan Sahraoui, qui est l'actuel chef de l'État islamique, donc Grand Sahara, donc la filiale. En fait, lui, il a un parcours, c'est plus donc plus radical d'une part, et pour ceux qui le connaissent, opportuniste. C'est quelqu'un qui voulait devenir chef, d'accord? Donc, il était d'abord proche d'ACMI. Après, quand il y a eu une cession, en fait, le Mujao à l'époque s'est séparé d'ACMI, il se rejoint le Mujao. Et enfin, il rejoint Belmokhtar pour Fumoulat Emin, l'organisation des sénateurs par le sang, telle qu'elle est connue, d'accord? Bon. Et en fait, le parcours est atypique, c'est une continuité, en fait, c'est de l'opportunisme d'un individu qui veut monter en puissance. Alors, si on se repositionne un peu en 2014-2015, c'est la période d'apogée de Daesh. Et il y a un peu un sentiment de déclin de Qaïda, si vous vous en souvenez. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de débat à toutes les organisations, notamment. Alors, on a vu en ACMI en Algérie à l'époque avec Jun Khalifa, on l'a vu également en Jun Khalifa fait Tunis à l'époque. Et donc, si vous voulez, il y a un débat au sein des organisations nord-africaines, sahéliennes, sur l'opportunité de se joindre ou non à Daesh. Et donc, pour revenir au Sahel, à l'époque, Belmokhtar, Abu Zayd était déjà décédé, Abu Humam, etc., étaient des loyalistes d'Al-Qaïda. Donc, au moins, on refusait. On reste loyal à Al-Qaïda, le manager salafi des djihadis. Il y a hors de question qu'on se joigne à Daesh. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Adnan Sahraoui, qui à l'époque est numéro 2 de Belmokhtar, se sépare de Belmokhtar et crée sa propre organisation. Il fait allégeance, il annonce que les sénateurs par le sang font allégeance à Daesh. Belmokhtar dément immédiatement, et donc il se fait une scission. Alors, ce qu'il faut, comme vous avez dit, vous souvenez très très bien, en 2015, 2016, 2017, à l'époque, j'étais allé plusieurs fois là-bas à l'époque au Mali, le Daesh au Mali est une organisation mineure. En fait, à l'époque, quand vous discutez avec des gens, c'est à peine si on vous la mentionne. Hein, c'est vraiment, on parle de 50 bonhommes à l'époque maximum. 50-60 bonhommes maximum. C'est vraiment, on est dans le négligeable. On est vraiment dans le négligeable. Et alors, si vous en souvenez, il y a le tournant. Le tournant, c'est en fait l'embuscade de Tonga Tonga, là, où il y a eu des soldats américains. Tonga, voilà. 4 soldats américains des forces spéciales ont été tués. Et donc, bon, en fait, et donc, ça donne, c'est le tournant. Sahraoui, qui à l'origine, c'est par accident, pratiquement. Il y a une opération ratée des Américains, qui se tourne en désastre. Et Sahraoui va exploiter de manière, très intelligente, de mort, cette opération, l'échec américain. Et donc va devenir l'État islamique dans le Grand Sahara va devenir immédiatement une organisation très puissante. Et je voudrais vous rappeler que d'ailleurs, juste pour vous signaler, Daesh n'a pas reconnu l'allégeance de Sahraoui jusqu'à très très tard, entre 2015-2016, elles n'ont pas reconnu son allégeance. C'est très très tard, c'est au début de la bataille de Mossoul que Daesh reconnaît en fait cette allégeance. Donc c'est vous dire que c'était négligeable. Donc il y a l'embuscade de Tongo Dongo qui lui donne un prestige qu'on appelle des clés de noblesse d'une part. Deuxièmement, il a fait une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie des forêts. En fait, il s'est positionné au niveau des frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette zone des forêts. Il s'est fait discret. Et si vous voulez, dans ces zones-là, ça l'a en fait épargné des frappes de Barkhane à l'époque, si vous voulez, contrairement au GNIM, aux autres organisations. Donc là, il a construit des bases arrières. Il a établi des relations qui déjà existantes avec les groupes locaux et notamment donc avec, comme vous avez dit, les ethnies locales dans la région du Souma, du Burkina Faso et autres. Il les recrute. Et l'embuscade de Tongo Tongo lui donne un prestige notamment aux autres auprès d'une autre organisation, aux autres organisations. Et vous avez une Katiba, donc une des plus puissantes Katiba qui le rejoint. C'est plus grande Katiba qui le rejoint et qui donc finalement. En un an, il devient un acteur très puissant. Mais cependant, il est très actif. Enfin, il est très très actif. Mais le plus puissant demeure encore une fois l'organisation d'Iyad Ali. Donc, je connais pas exactement les chiffres exacts. Mais pour l'État islamique dans le Grand Sahara, on parle d'à peu près 400 hommes.
Oui, pour l'embuscade de Tongo Tongo, il y avait à peu près, selon le relevé américain, il y avait entre 300 et 350. Voilà. Djihadistes armés qui ont participé. Juste une question. Donc, si on sait à peu près.
Si vous me permettez. Si vous me permettez. Alors, juste en fait, il y a eu. Ce que je veux dire, c'est que terminé pour faire enfin, l'État islamique dans le Grand Sahara, il y a eu après, donc, il y a eu une tentative de rapprochement entre le GNIM et le Kaïchou en 2019. Et là, donc, d'après les dernières informations, apparemment. Les deux organisations seraient entrées en mouvement de rivalité de nouveau. Il y a une rivalité qui serait apparue ces derniers mois. Et d'après ce qu'on dit, c'est en fait en partie dû au fait que GNIM sera entré en négociation avec Bamako éventuellement. Donc voilà, c'est ce que je voulais rapporter comme. Voilà.
Justement, si on connaît un petit peu les finances, le financement, la composition d'Al-Qaïda au Maghreb et dans le Grand Sahara, comment se finance Daesh dans cette région-là, l'État islamique, et qui sont les hommes qui y font partie? Là, c'est une vraie question que moi je me pose.
Alors bon, écoutez, il y a beaucoup, il y a les paiements d'abord. Ils sont mêlés dans les trafics locaux. Il y a beaucoup de trafic, donc nourriture. Comme je vous ai pas, donc ils offrent des protections, ils font du transport. Donc ça donne un peu, donc ils leur donnent des revenus. Récemment, on a parlé donc leur implication dans des, ils font des pressions sur les richesses minières, par exemple, dans les richesses minières. Il y a également les otages. Bon, ça c'est plutôt le Qaïda d'ailleurs, demande. C'est plutôt le Qaïda. Ils ont également des revenus, ils ont également des zakats, des prélèvements. Ils prélèvent également de l'argent sur, donc il y a toutes ces, c'est en fait c'est pas une source principale, c'est plusieurs petites sources à droite et à gauche qui pris ensemble leur donnent de leur source de revenus. C'est essentiellement sur les trafics qu'ils font les prélèvements qu'ils font sur le trafic contre protection qu'ils font, notamment donc la zone civile d'action du, bon, notamment si pour l'État islamique en particulier le Burkina Faso, les trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, c'est une zone tampon pour tous les trafics humains, de drogue, nourriture, tout ce que vous voulez. Et donc, si vous voulez, là, Al-Sahraoui a lié des liens très anciens d'ailleurs avec les trafiquants dans la région. Et donc, il, 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 il reçoit des dîmes, il reçoit de l'argent d'entre eux, etc. Donc voilà, c'est essentiellement le main source. Ce qu'on rappelait aussi une chose, c'est que il faut, ce que rappelez-vous aussi, que ces gens-là ne consomment pas beaucoup d'argent dans leurs dépenses tous les jours. C'est de l'essence, ils ont besoin des armes. Bon, les armes, comme vous savez, les armes ne coûtent pas très cher non plus. Une arme coûte $200, donc Kalachnikov, bon, des essences. C'est pas non, leur consommation d'argent n'est pas énorme non plus. Donc voilà.
Et quelle lecture vous faites de donc de la menace d'attentat qui avait eu lieu fin décembre, qui a duré jusqu'au début janvier sur Tindouf et sur les camps Sahraoui, donc contre des ressortissants espagnols, et qui a été suivi par une embuscade sur la frontière avec la entre le Mali et la Mauritanie.
Bon, là, c'est, vous savez, ça, c'est dans, la continuité des combats, l'extension des combats, c'est une zone ouverte. Moi, pour moi, je vois ça dans la continuité, notamment de l'État islamique qui essaie de se renforcer. Là, pour moi, c'est, il y a une continuité. Ils sont en train de, ils montrent qu'ils peuvent frapper partout quand ils veulent, comme ils veulent. D'autant plus que je vous rappelle qu'il y a eu, récemment, il y a eu Macron en France, etc., qui, sous le renfort, l'envoi de renforts, le déclenchement d'opérations et autres. Donc, c'est aussi pour dire, on est toujours là et on frappe comme on veut, quand on veut. Si vous regardez la frontière mauritanienne, en fait, d'abord, la frontière mauritanienne, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été touché, si vous regardez bien. Et, en fait, elle a été considérée comme c'est relativement sécurisé aussi. Donc là, c'est pour dire, je l'interprète comme étant, on peut frapper comme on veut, quand on veut, où on veut. Voilà. Et aussi loin que la frontière, mauritanienne. Alors que si vous regardez, c'est quand même très très loin, hein, très très loin de leur zone habituelle d'attaque. Hein. Les zones habituelles d'attaque, surtout depuis une année, c'est le nord du, le Burkina Faso, notamment la zone nord, la zone des trois frontières, et bien sûr le centre du Mali. Voilà. Donc c'est un peu loin, c'est un peu loin de leur zone d'action traditionnelle, d'une part. Donc, moi, je mettrais ça dans le contexte des récentes opérations Barkhane, d'opérations de renforcement des opérations françaises dans la région, de dire on est toujours là, on frappe comme on veut.
Justement, je voulais en arriver là, donc en arriver à Barkhane et à l'action militaire internationale, donc que ce soit G5, MINUSMA et Barkhane. Quelle analyse faites-vous de l'action? Est-ce qu'elle est suffisante, insuffisante, efficace, inefficace? Et quel pourrait être l'avenir de cette action?
Je suis allé, je suis allé au G5 Sahel, donc à l'époque à Bamako, j'ai pu voir la MINUSMA, etc. Et je suis allé aussi également à la MINUSMA et tout. Bon, c'est largement insuffisant, il y a beaucoup d'efforts qui est fait, mais écoutez, encore une fois, Barkhane, c'est 4000 hommes, même avec le renfort qui ont été faits, je crois, ça devrait donner à peu près 5000 hommes, MINUSMA, c'est quelques milliers d'hommes aussi, c'est un travail titanesque, le G5 Sahel, également, c'est des états faibles qui sont venus ensemble, qu'on espère armés et entraînés, mais par exemple, quand j'étais au G5 Sahel, j'ai conduit des interviews là-bas, et également auprès des autorités des armées maliennes, qu'est-ce qu'on me disait? On m'a dit, on nous donne un entraînement de base, mais en fait, par exemple, le matériel qu'on donne à l'armée malienne est complètement inadéquat par rapport aux défis qu'on donne, il faut des hélicoptères, des systèmes de transport et autres, qu'on ne donne pas à l'armée malienne, l'entraînement ne correspond pas aux besoins. Par exemple, au G5 Sahel, il y a des problèmes de responsabilité, qui est responsable de quoi, etc. Parce que vous avez le G5 Sahel, vous avez la MINUSMA, vous avez l'opération Barkhane, vous avez également l'armée malienne toute seule, vous avez toutes les armées qui font des opérations, etc. Donc il y a aussi des problèmes de responsabilité. Le matériel, encore une fois, le matériel qui est utilisé sur place est complètement inadéquat par rapport aux défis. Les sommes sont inadaptées par rapport aux défis. Donc pour moi, comment vous dire, ça empêche le pire, mais je ne crois pas qu'à l'état actuel des choses, ça permettra de résoudre le problème. Beaucoup plus d'efforts, voilà.
Bon, on a aussi un problème de mandat pour, je crois, de la MINUSMA. Ils ne sont pas sous chapitre 7, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas donc avoir être agressif, donc poursuivre
les terroristes. Tout à fait, vous avez raison de mentionner ça, ça m'a échappé, donc oui, tout à fait, tout absolument.
Et on a aussi une sorte de gouffre financier que représente, par exemple, l'EUTM, qui est European Union Training and
L'UITM est un... Enfin, moi, quand j'étais au Mali, j'interviewais des officiers de l'armée malienne. C'était très critique de l'UITM. C'est notamment, par exemple, cette histoire de... On parle de l'entraînement qui n'a rien à voir avec les besoins, le matériel qui n'a rien à voir avec les besoins. C'est très, très critique. Bon, très... C'est durement... Si vous parlez aux officiers de la région, ils sont très critiques de ces initiatives. C'est-à-dire qu'ils vous disent... on en a besoin, mais ce qui est donné n'a rien à voir, était complètement inadéquat. Il y a inadéquat par rapport à, voilà, là je paraphrase encore quelqu'un que j'ai interviewé qui me dit ça n'a rien, c'est inadéquat par rapport aux réalités du terrain, aux besoins. L'UITM est un exemple, l'UITM est un exemple parmi d'autres. D'ailleurs même les officiels algériens étaient critiques de l'UITM par rapport à son efficacité, pour être tout à fait clair.
Donc vous venez de dire le mot magique qu'on a essayé d'éviter depuis le début, algérien.
Oui.
Justement, on a parlé de tout sur de l'Algérie. Quel est le rôle de l'Algérie? Quel pourrait être le rôle de l'Algérie? Est-ce que l'absence de l'Algérie du conflit n'est pas n'alimente pas la crise? Quel rôle pourrait jouer l'Algérie à l'avenir?
Bon, l'Algérie d'abord, pour être tout à fait clair, est un acteur majeur. C'est peut-être quand vous analysez les puissances régionales, c'est aux mêmes qualités que la France, peut-être même plus importante, plus importante. Donc non, l'Algérie est un acteur incontournable. Toute tentative de mettre l'Algérie sur le côté n'a aucun sens. Donc l'Algérie est un acteur incontournable, très présent. L'Algérie a fait plusieurs médiations. Je parle de plusieurs accords. L'Algérie a fait plusieurs médiations. Elle a fait plusieurs. On parle de 2013, 2015 notamment. L'Algérie est présente discrètement et aussi là-bas sur place. Donc quand il y a des formations, on le voit pas beaucoup. Par exemple, moi quand j'étais en 2017 ou en 2018, je me rappelle par exemple qu'il y avait des délégations de l'armée algérienne qui étaient venues, qui avaient donc passaient à la télévision malienne. On voyait par exemple des entraînements, des formations. Etc. Donc l'Algérie est présente. Maintenant, comme vous dites, là, le problème de l'Algérie, c'est que diplomatiquement, il n'y a plus de grande initiative depuis 2015. Elle n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, dû à des conditions, la situation interne de l'Algérie, comme vous le savez. Bon, ça, c'est d'une part. Deuxièmement, un des problèmes là-bas, c'est que la vision qu'a l'Algérie du problème malien était jusqu'à il y a quelques mois très différente de celle qu'avait Paris. D'accord? Donc Paris, Paris, comme vous le savez, Paris avait mis l'emphase sur les opérations militaires, sur la lutte antiterroriste, en tant que telle, pour régler le problème, donc sur l'aspect militaire de la lutte antiterroriste. Alger, pour sa part, en fait, prenait un dialogue, c'est-à-dire, Alger considère que le problème malien est complexe, considère qu'il y a, notamment dans le problème Touareg, il y a des demandes légitimes, il y a des légitimes que les rébellions Touareg et autres qui doivent être satisfaites, d'accord, doivent être satisfaites, et d'une part. Elle considère par exemple également que Iyad Rally est un acteur donc malien dans les principales raisons de ses rébellions, de son action, sans parallèlement des motivations idéologiques Al-Qaïda et autres, mais simplement dû à des dynamiques internes. Par conséquent, Alger prenait un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs de la crise malienne. L'idée étant que il y a des acteurs maliens qui ont des demandes légitimes, qui, si on les satisfait ces demandes, on pourra les séparer des groupes terroristes djihadistes. Et à ce moment-là, donc, sans soutien de ces acteurs locaux maliens, les groupes djihadistes ne seront plus en mesure d'être actifs. Et par conséquent, on pourra être plus facilement éliminés. Donc, c'est vraiment, en fait, l'idée d'Alger, c'est de désimbriquer les acteurs maliens des acteurs transnationaux. Quand vous parlez des officiels algériens, c'est ce qu'ils vous disent. D'accord? Sauf que, bon, Bamako, jusqu'à présent, jusqu'à récemment, Paris ne voulait pas faire ça. Maintenant, Bamako semble, et puis Paris finalement aussi, semble avoir compris que c'était ce qu'il fallait faire, puisqu'on le sait maintenant, depuis plusieurs mois, en fait, même avant, des contacts avaient été établis avec des groupes armés, maintenant avec les djihadistes GNIM et donc Amadou Koufa. Et donc là, maintenant, il y a des négociations formelles qui sont faites avec Amadou Koufa et Iyad Rally. Et donc c'est un peu, si vous voulez, ce que disait Alger, c'est il faut faire ça, il faut faire tout pour couper les groupes transnationaux de leur soutien local, de la population. Donc voilà.
Bon, maintenant, d'une part, bon, maintenant la situation, disons, domestique en Algérie, on va dire se stabiliser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, les nouvelles autorités algériennes, en tout cas, envoient des signaux partout dans la région que l'Algérie, maintenant, de retour, elle veut jouer son rôle. On l'a vu en Libye, récemment, et on a des échos similaires sur le Mali. Donc l'Algérie veut à nouveau donc investir la scène malienne. Je crois qu'elle a un rôle majeur. Elle a des contacts avec des contacts extrêmement anciens et profonds avec l'ensemble, hein, je veux dire, parce que l'ensemble des acteurs maliens, elle connaît extrêmement bien le dossier. Peut-être même c'est le pays qui connaît mieux le dossier. Et je crois qu'elle a des atouts majeurs à jouer donc, sur cette question-là.
Justement, est-ce que vous pensez que une des solutions serait de réactiver le CEMOC, par exemple?
Écoutez, est-ce que si vous me permettez d'être critique?
Bien sûr.
Alors, si vous me permettez d'être critique, je crois que le CEMOC, pour moi, pour je crois qu'ensemble le truc, a été une coquille vide, n'a jamais fonctionné. Jamais fonctionné, le CEMOC. C'était en fait, si on se rappelle en 2008 quand il a été créé, c'est, il devait organiser des manœuvres militaires, renforcer la coopération ensemble. Si on regardait le mandat, en fait, c'est lui qui aurait, le CEMOC aurait pu, s'il avait existé, aurait pu jouer un rôle majeur dès 2011. Donc, pour moi, le CEMOC n'a jamais rien eu. Le CEMOC n'a jamais réellement existé. Donc, comme vous dites réactiver, moi je dis faut activer. C'est même pas réactiver, c'est activer, donner de la substance au CEMOC. Et là, oui, je crois que c'est une des avenues que pourrait donner Alger, c'est activer le CEMOC. Si vous me permettez, donc activer le CEMOC et donner de la substance. De la substance. Oui, absolument.
Et donc, on a un autre processus international qui est très discret, dont on parle pas beaucoup, c'est celui de Nouakchott, qui fonctionne très bien, apparemment.
Il fonctionne bien, je ne sais pas, mais il fonctionne. Ça, c'est, il fonctionne des, c'est un des rares processus qui donne certains résultats ici ou là. Mais, si vous voulez regarder, en fait, si vous regardez toute la discussion qu'on a, vous avez tous les processus qu'on a parlé, le CEMOC, Barkhane, la MINUSMA, Nouakchott et autres, G5 et autres. Et à un moment donné, il y a une overlap, comme on dit en anglais, il y a un overlap, il y a une compétence, on sait plus qui fait quoi, etc. Il y a une confusion à un moment donné. Donc ça, c'est une des choses que beaucoup d'observateurs locaux soulèvent. Il faut une clarification des compétences et une simplification et une fusion. Et c'est, il y a trop d'acteurs, il y a trop d'institutions, il y a trop d'initiatives et on s'y retrouve plus. Donc, mais oui, Nouakchott est un des processus qui fonctionne le mieux. Ça, c'est clair. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous.
Et donc, si vous pouvez revenir un petit peu sur, car c'est très peu connu, hein, vu que c'est très récent, que la révélation était assez récente, sur le processus de négociation qui aurait lieu aujourd'hui entre IBK, enfin entre le gouvernement malien et certains groupes terroristes, et qui sont les intermédiaires, et donc j'aimerais que vous parliez un petit peu du personnage de l'imam Mahmoud Diko, qu'on ne connaît pas en Algérie, malheureusement, que le grand public ne connaît pas, mais qui est quand même un voyage très, très important de ce qui se passe
central. Au Mali. Alors, l'idée d'un dialogue, en fait, ne date pas d'hier ou il y a quelques mois, en fait, il a eu lieu déjà depuis longtemps. Et Diko était l'un des principaux, était très vocal par rapport à ce dialogue depuis plusieurs années, hein, D'autant qu'il a une proximité avec Koufa, il connaît personnellement Iyad Rally, il a des liens, etc. Donc, Diko d'une part. Donc, d'autre part, il a soutenu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un soutien important d'Ibeka, l'actuel président du Mali. Et, donc, l'une de ses conditions, c'est, justement, ce sport de dialogue avec le groupe islamiste. Troisièmement, Diko est un islamiste. C'est un non-violent, mais il est considéré comme un islamiste assez dur, d'accord? Et donc, Diko a toujours prôné ce dialogue avec les groupes, la mouvance djihadiste, d'autant plus encore une fois qu'il a des liens forts et personnels. Dans son cas, c'est des liens personnels qu'il a avec Koufa et Iyad Rally. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, il y a eu des intermédiaires et de dialogues qui a eu des sont pas en secret depuis plusieurs années. Et là, donc, il y a une combinaison. Depuis deux ans maintenant, il y a une flambée de violence. Vous l'avez vu, une flambée de violence qu'on a rarement vue dans la région depuis deux ans. Et l'armée malienne, l'armée de la région était incapable de contrer cette flambée de violence. Et donc c'est sur ce fond-là, donc l'idée d'un dialogue avec d'ouvrir en tout cas un dialogue plus sérieux avec les groupes armés s'est imposé de lui-même, d'accord. Et donc comment c'est maintenant, en fait, il y a eu bon, Ibeka vient de le confirmer, mais en fait le ce qui semble, il y a une accélération depuis maintenant 6 mois, depuis l'été 2019, où il y a un avocat Barik, qui connaît bien également Koufa, avec des responsables maliens a rencontré Koufa, il a été question d'une trêve et d'un échange de prisonniers. Donc des prisonniers djihadistes ont été libérés en échange de prisonniers maliens. Ça a été fait. Il y a eu ensuite des membres des services de renseignement également fait une rencontre, de rencontrer Koufa et d'autres personnes au sein d'un mouvement djihadiste. Là encore, donc il y a eu des progrès qui ont été faits. Après, bon, il y a eu tout à coup un revirement, comme ça arrive souvent. Le Barré a été arrêté, mais finalement, ça n'a pas empêché le dialogue de continuer. Donc là, on est en processus de négociation avec des difficultés, comme on peut le voir, des allers-retours qui ont lieu. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais encore une fois, l'idée d'un dialogue remonte à plusieurs années. Et Amadou Diko, donc chef d'un mouvement islamiste malien très dur mais non violent, a été un des principaux artisans de cette idée, de pousser pour ce dialogue depuis longtemps.
Mais il y a un gros problème aujourd'hui, c'est que le Mali n'est pas en mesure de négocier. En fait, les cartes qui sont entre les mains des Maliens sont très très faibles. Le Mali est en train de perdre la guerre. Et quelles concessions peuvent-ils faire?
Vous avez raison, c'est la grande question qui c'est là, c'est justement ce que disent. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Qu'est-ce que les groupes djihadistes peuvent négocier? C'est-à-dire qu'encore une fois, comme vous dites vous-même, ils sont en position de force. On voit l'armée malienne évacuer certaines positions, être incapable de défendre, être complètement dépassée. Vous l'avez vu moi-même, elle est complètement dépassée par les événements. Elle est entrée à Kidal après combien? Presque 9 ans d'absence, et simplement après des négociations avec les groupes locaux. Donc, ça vous donne un tas de la situation. Donc, je fait d'accord avec vous, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Bon, faut voir maintenant, on connaît pas encore très clairement les termes de la négociation, bon, j'imagine que peut-être que c'est satisfaire certaines demandes au niveau de, par exemple, bon, je pense que le principal atout de Bamako, c'est ce soutien international de Barkhane qui en fait permet de faire un peu pression sur les djihadistes. Mais autrement, je suis d'accord avec vous, je suis un peu perplexe. Les djihadistes en fait en pleine expansion n'ont pas grand chose à perdre, enfin n'ont pas grand chose à gagner, au contraire, puisque même les Paris semble donner des signaux de lassitude par rapport à son engagement.
D'ailleurs, je vais vous faire remarquer quelque chose. Pardon? Que vous avez remarqué ou pas. Oui. Depuis 6 mois, depuis que ces négociations ont commencé, le nombre de terroristes entre parenthèses entre guillemets Touareg ou autres qui venaient se rendre en Algérie ne se rendent plus. Ça dénote qu'il y a une reprise en main des groupes djihadistes sur le terrain et que l'envie d'abandonner est en train de disparaître de leur côté.
Oui, puisque maintenant bon, il y a une ouverture au niveau de Bamako. Donc, j'imagine qu'il y a une baisse des opérations militaires. On le voit, bon, même si Paris le dit, mais il y a, on voit des opérations militaires ici ou là. Mais, semblerait que toutefois, effectivement, pourquoi se rendre si on peut vivre en toute liberté dans le Nord Mali? Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, absolument. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir l'incidence, par contre, de ces négociations, ce que je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous permettez, sur les groupes djihadistes entre eux, parce qu'apparemment, il y a l'EIGS, qui est l'État islamique, qui semblait opérer un rapprochement avec le GNIM. C'est par contre séparé, une dynamique de rivalité qui est à nouveau entre les deux organisations. Notamment le fait de l'opposition de l'Albanie à ces négociations.
C'est ce qu'on a vécu en Algérie avec la trêve avec l'AIS qui a précipité la disparition du GIA.
Voilà. Sauf que, comme vous le mentionnez, si vous me permettez, c'est le parallèle que vous avez fait, et c'est celui que je voulais faire, c'est qu'en 97, au moment où il y a la trêve entre l'AIS, la situation militaire était lourdement en faveur de l'armée. Donc il y avait l'armée nationale populaire qui avait littéralement empêché, l'AIS nigérienne n'était plus en position de gagner. Donc là, il y avait, l'armée était en grande position de force d'une part, et ensuite l'AIS était pris entre deux feux, donc, entre l'armée et le GIA. Aujourd'hui on est dans une situation, j'ai envie de vous dire, un peu inverse. Si Barkhane demain se retire, tout tombe. Donc voilà, c'est pour revenir à la question que vous avez posée, qu'est-ce que peut négocier le Bamako, je ne sais pas, ça me paraît difficile.
Et quels sont les risques selon vous pour la Algérie?
Ah là là, bonne question. Bon, admettons qu'il y a deux possibilités. Possibilité 1, les négociations débouchent sur un accord de Bamako et ses groupes armés, slash donc un accord à la malienne. C'est-à-dire que, on va dire, les groupes armés djihadistes, purement maliens, acceptent de déposer les armes. Acceptent de déposer les armes contre amnistie, on leur donne des programmes de développement économique, on essaye de résoudre tous les problèmes ethniques, etc. Et donc on essaie de stabiliser la situation, auquel cas donc il devrait y avoir une disparition des groupes armés djihadistes. D'accord. Restera ensuite le IGS et les groupes transnationaux qui là par contre pourront être pourchassés, par exemple dans le cadre d'une coopération plus globale. Donc ça, ce que je vous dirais, c'est sans doute ce que cherche Bamako et sans doute ce que veut Alger. C'est le scénario algérien que va ouvrir Alger. D'accord. Donc les groupes djihadistes transnationaux seraient affaiblis. À ce moment-là, seraient obligés de, parce qu'ils n'auraient plus le soutien des groupes locaux. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée de Bamako. C'est en tout cas ça l'idée de Alger dans le dialogue. Donc première option. Mais encore une fois, comme l'avait dit, je ne sais pas qu'on va se diriger vers cela. Donc deuxième option, il y a une trêve qui se met en place, mais des sanctuaires s'établissent dans le Nord Mali, et à ce moment-là, c'est très très dangereux. C'est des sanctuaires, par exemple, s'établiraient là, c'est très dangereux pour la situation. Et là, par contre, pour l'Algérie, la situation militaire serait très très dangereuse à ce moment-là.
Mais bon, l'Algérie garde quand même ses capacités d'intervenir.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous me permettez. Là, la question se posera à l'armée nationale populaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous continuez? Parce que là, effectivement, est-ce que vous frappez les, parce que bon, vous l'avez dit vous-même, l'armée nationale populaire a déployé d'importants moyens à la frontière algérienne, malienne et autres. C'est tout le temps que les moyens sont là, hein. Comme vous le dites vous-même, les militaires sont là. Donc, est-ce que ces moyens militaires seraient utilisés simplement à bloquer toute arrivée de groupes djihadistes, ou alors au contraire une intervention de l'armée contre ces sanctuaires? Encore une fois, si vous me permettez, quand cela s'est passé en 2012 et 2013, même aujourd'hui, hein, d'une certaine manière, ça fait des appels d'air. Quand les djihadistes prennent le contrôle de zones, il y a des appels d'air. On voit la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Vous voyez le centre du Mali. Donc là, moi, à mon avis, c'est très, très dangereux. Vous imaginez que des sanctuaires, vous aurez tous les groupes armés djihadistes de la région qui voudraient venir. Donc, voilà. Donc là, par contre, le scénario pour l'Algérie, c'est un scénario catastrophe. Et là, la question se prendra sur ce qu'on appelle la doctrine de non-intervention. À mon avis, devra être évaluée ou réévaluée. Hein. En tout cas, la question se posera.
Et donc, en gros, quelles sont vos prédictions pour la région du Sahel? Est-ce qu'on va vers une stabilisation? Parce que là, on a essentiellement parlé du Mali, mais le Sahel, ce n'est pas que le Mali, même si c'est son élément central. On est en train de voir aujourd'hui des attaques au Bénin, dans le Upper West du Ghana, dans d'autres régions. Comment voyez-vous l'avenir immédiat ou, disons, à long terme?
Alors, bonne question. En fait, trois pays que je suis très très inquiet. Alors, deux pays au moins très très inquiets, Mali, Burkina Faso. Burkina Faso est dans une situation catastrophique, c'est le mot qu'on peut dire. Même on parle de risque d'effondrement de l'État, donc très très dangereux. Je parlais pour le Burkina Faso. Mali, dangereux. Niger, vous l'avez vu, on a vu le Niger commencer à être extrêmement inquiétant. Donc, trois zones extrêmement inquiétantes. Inquiétude pour les conséquences sur la Mauritanie. La Mauritanie a réussi à se préserver depuis 2011. Et donc l'attaque dont vous avez mentionné soulève des craintes par rapport au Mali. On n'a pas mentionné, mais je voulais mentionner l'attentat suicide il y a quelques jours dans le sud de l'Algérie. Ça oui. C'est une première depuis longtemps. Donc, ça, sur ce, ça veut dire sonate d'alarme, on l'a bien vu dans les analyses de l'armée algérienne. Et ensuite, comme vous l'avez dit vous-même, les attaques qui sont multipliées, même si c'est des attaques, donc je dirais c'est des attaques, mais il n'y a pas d'implantation pour l'instant, du moins, de groupes terroristes. Mais le Bénin et autres, comme vous avez mentionné. Donc, moi, je suis très inquiet de la situation, parce que malgré toutes les mesures qui ont été prises, on parle de Nouakchott, encore une fois, je prends ma Nouakchott, MINUSMA, G5 Sahel, l'envoi de renfort de Barkhane, on n'arrive pas à arrêter, hein. On n'arrive pas à contenir la situation, et là donc moi je suis très inquiet, hein. très inquiet pour la situation. J'arrive pas à voir d'amélioration notable, parce que bon, l'armée française a continué de mener des opérations, il y a encore beaucoup ont été tués, il y a eu beaucoup de morts ces dernières semaines de groupes djihadistes, mais ça n'enraye pas les attaques. On l'a vu hier, vous avez vu hier une attaque de 20, il y a eu 20 morts, ce matin une attaque, oui. Il y a eu 8 militaires maliens tués, et ça c'est ce qu'on sait, comme on dit quelqu'un, il y a ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas encore, donc moi je suis très inquiet, hein, très inquiet, et encore une fois je ne cesserai de le dire, attention, il n'y a pas simplement ces attaques là, il y a des conflits interethniques extrêmement violents, extrêmement dangereux sur lesquels en fait se nourrissent ces groupes djihadistes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les milices d'autodéfense, dont j'ai mentionné plus tôt, sont en fait beaucoup plus nombreuses que les groupes djihadistes eux-mêmes. Donc, c'est vous dire, c'est une poudrière, c'est vraiment une poudrière, le Sahel.
Et une question non complotiste, hein, il faut la prendre au sérieux. Il y a deux pays qui semblent survoler cette problématique du djihad dans le Sahel, le Sénégal et la Mauritanie. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a des raisons militaires, objectifs, économiques, de développement? Pourquoi ou comment?
Survoler, je ne sais pas si ça a coupé. Je m'excuse, survoler, je n'ai pas entendu de ça. Ça a coupé,
ah oui, survole cette problématique de djihadisme dans la région. Donc Mauritanie et Sénégal.
C'est-à-dire que vous voulez dire qu'ils n'ont pas été touchés réellement?
Oui. D'accord. Comment ils arrivent à gérer
Alors, si vous me permettez de la Mauritanie en fait, a été un épicentre du, si vous vous souvenez, dans les années 2000, elle était extrêmement, était victime d'attaques, etc. Alors, moi, je connais la Mauritanie depuis 2011. C'est l'époque, donc à partir de 2008-2009, il y a eu un coup d'État, comme vous rappelez, du général Aziz, et qui a en fait, une véritable affaire personnelle, pour ainsi dire, la lutte antiterroriste. Donc, de 2009 à 2011-2012, la Mauritanie a été littéralement forefront, à l'avant-garde de la lutte antiterroriste dans le Sahel. Je l'ai vu, je le sais, parce que je suis allé à partir de 2011, je suis allé plusieurs fois, et en 2012-2013, en Mauritanie. Donc, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est-à-dire une espèce de... Le Mali passé d'un état déstabilisé sur le... pas au bord d'effondrement, mais très affaibli, hein, dans les années 2000, à une reconstruction du Mali. Hein, je dirais pas un état fort, mais un état comme on peut l'être dans la région. Donc, mais ils ont mené une lutte implacable, hein, littéralement implacable contre le terrorisme pendant 2-3 ans. Il y a une pourchasse, ils ont pourchassé, à l'intérieur même du Mali, l'armée mauritanienne toute seule a mené des opérations à l'intérieur même du Mali, contre des camps d'Acmi à l'époque, aux frontières maliennes. Donc ils ont vraiment une lutte implacable. Un Nouakchott aussi. On avait fermé les Maradala. Donc il y a une reprise en main à l'époque de la Mauritanie par le général Aziz, à tous les niveaux. Sénégal, je ne pourrais pas me prononcer. J'imagine que c'est un peu loin. J'ai pas réellement couvert ce sujet-là. Mais pour la Mauritanie, il y a eu littéralement une lutte implacable qui a été mise en place, hein, à tous les niveaux, par contre. Sécuritaire, économique, militaire, tous les acteurs de la société ont été impliqués dans cette lutte contre le terrorisme, contre le radicalisme. Encore une fois, je suis allé là-bas et j'ai pu le voir de mes propres yeux. Ce qui n'a pas été fait. Il y a eu réellement une volonté des autorités de tout faire pour mettre ça. Bon, donc, si vous voulez, à partir de là, la Mauritanie est devenue, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la Mauritanie est devenue d'un sujet, est devenue un acteur important. Peut-être pas aussi important que la France et l'Algérie, par exemple, bien sûr que non. Mais n'empêche que quand vous faites des interviews, on doit vous demander quels sont les acteurs qui ont un rôle à jouer au Sahel. On vous dit la France. Et ensuite, on vous cite immédiatement après la Mauritanie. Ça vous donne une idée du rôle. Alors, c'est pour ça que je vous dis que la Mauritanie, en fait, a été épargnée de ces choses-là. Maintenant, la Mauritanie, encore une fois, a des capacités limitées. on peut pas capacité limitée. Quand vous avez le Mali, le Burkina Faso, tous les autres États autour qui n'arrivent plus à contenir la situation, la Mauritanie, bon, forcément, donc, je crains. Donc, bon, quand je communique d'ailleurs avec des amis mauritaniens, ils m'ont dit, ils expriment même leur crainte par rapport à toutes les avancées qui ont été faites, si vous voulez, au niveau justement de la radicalisme, de la lutte contre le radicalisme ces dernières années, peuvent être remis en cause par justement cela. Donc encore une fois, voilà, la Mauritanie a vraiment été, si vous me permettez une phrase là, la Mauritanie était vraiment proactive. Hein, faut y être allé à l'époque pour avoir vu ça. Donc vraiment, je l'ai vu. Moi.
Donc on va essayer de conclure sur une note positive. Il est possible de vaincre le djihadisme dans cette région. La meilleure preuve, c'est la Mauritanie et les efforts qu'elle a déployés pour contenir ce phénomène-là. Donc nous étions avec l'auteur du livre Le djihad en Afrique du Nord et au Sahel d'Akmi Adaesh, professeur Gilady Lounas. Donc votre livre est édité aux éditions L'Harmattan, c'est ça?
Tout à fait, les éditions de la Fondation pour la Recherche Stratégique L'Harmattan.
Merci monsieur Lounas et à bientôt. Merci d'avoir été notre premier invité.
Merci de m'avoir invité. Je vous remercie.